De retour à l'émission Au gré du temps, nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui Mme Louise Harel. En première partie d'émission, nous terminions en parlant justement de cette implication dans un quartier, dans une circonscription qui a été durement éprouvée par toutes sortes de soubresauts de l'économie. Cependant, c'est aussi l'envers de la médaille, c'est que parfois il y a des gestes et il y a des... j'allais dire, des innovations qui permettent d'espérer. Je pense, par exemple, à certaines industries d'intégration pour des personnes atteintes de difficultés au plan de la santé mentale. Il existe un organisme chez vous qui a permis et qui est même devenu un modèle en ce domaine. Ça, ça fait plaisir quand on voit l'émergence de telles choses, n'est-ce pas?
Bien, vous avez raison, parce que en pleine crise des années 80, là, en pleine crise de l'industrie lourde, des pertes d'emplois qui se comptaient par milliers. À ce moment-là, on avait créé un organisme, c'était un comité de survie de l'Est de Montréal, M. Malépart, qui était mon voisin à l'époque, qui est décédé, Jean-Claude Malépart, qui était député fédéral, libéral fédéral, et moi. Et puis avec les métallos, avec beaucoup d'autres organismes. Et ce que ça a permis, c'est l'émergence de Parachem, ça s'appelait Programme Action Revitalisation, Hochelaga Maisonneuve, l'ancêtre de ce qu'on connaît maintenant comme les corporations de développement économique et communautaire qui ont pu être développées à travers tout le Québec. Et l'anonymat de la grande ville fait en sorte que lorsque se produit une situation comme la crise économique qu'on a connue dans les années 80, les gens se parlent pas parce qu'ils ne vivent pas ensemble. Tu sais, contrairement à des, mettons, les villes comme la Tuque, par exemple, là, où le gérant de l'usine va être dans la même chorale que les gens de la ville. L'anonymat d'une grande ville comme Montréal faisait que des gens de la grande entreprise jamais allaient côtoyer des gens du milieu communautaire, qui jamais ne rencontraient non plus des gens du milieu des affaires et vice-versa. Alors que c'est ce que la crise de 80 nous aura permis. M'aura permis de comprendre. Puis ensuite, je serai ministre de la main-d'œuvre. Et à partir de là, les corporations de développement économique et communautaire qui existaient dans trois quartiers de Montréal, Réseau, dans le sud-ouest, Centre-Sud et Hochelaga-Maisonneuve, seront extensionnés pour permettre cette concertation de développement communautaire économique avec les entreprises d'économie sociale, avec les entreprises d'insertion. Et on fêtait le 10e anniversaire du collectif des entreprises d'insertion l'an passé, au moment où j'étais
ministre. Mais ce n'est pas un discours qui est à la mode de nos jours.
Au contraire.
De moins en moins, à tout le moins, à l'avant-scène politique, j'entends. Peut-être pas sur le terrain, mais à l'avant-scène politique.
Mais pourtant, vous savez... l'économie ne peut pas exister en dehors du social. Et puis, le social aussi doit, d'une certaine façon, déboucher. Alors, c'est la réconciliation, c'est la combinaison gagnante. Parce que il y a pas d'investissement dans un désert, si vous voulez, de maisons barricadées, de gens sous-scolarisés. Il faut d'abord investir dans les services publics. Il faut investir aussi dans la qualité de la vie des gens. Je parle notamment du logement aussi, du logement, des conditions de vie, des conditions de scolarisation, puis l'école montréalaise en particulier, dont on parle beaucoup maintenant, l'école montréalaise aurait besoin d'un grand, grand, grand coup d'appui là, de la part de l'opinion puis des gens qui nous écoutent. Là.
Alors, Montréal reste pour vous bien branché sur votre cœur.
Oui.
Ça se sent.
J'aime Montréal. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dis toujours que l'avenir du Québec se passe à Montréal, par Montréal.
Ariane Moffatt, Montréal.
Je reviens à Montréal. La tête gonflée de nuages, c'est le transit d'Amsterdam qui s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage des anges dandys aux danses plumages ont mis en lumière mon passage. Le soleil inonde le terminal, le top fait danser mes scandales en format original.
Avec nous, Louise Harel. Madame Harel, l'envers aussi de la médaille, c'est que je ne voudrais pas non plus que ce soit toujours trop complaisant, vous et moi. Lorsque vous avez été ministre des Affaires municipales, là, vous l'avez eu difficile parce que ce projet de réforme, de fusion, on sait que ça a été dans un certain... Dans certains milieux, on a parlé de gâchis. Le parti adverse a pris le pouvoir et a essayé de défaire en partie ce que vous aviez fait. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de toute cette expérience? Est-ce que ça a été une période difficile?
Ben, écoutez, il n'y a jamais de réformes qui se font sans difficulté. Puis, évidemment, il y en était question depuis 40 ans. Je vous rappelle que de la Révolution tranquille, le seul morceau qui était absent, c'était cette grande réforme municipale. Monsieur Drapeau en parlait déjà à l'époque, Jean Drapeau, il y a 40 ans. Bon, au même moment où à Toronto, à Ottawa, à Fredericton, un peu partout, toutes les grandes villes se réorganisaient. Ici, au Québec, les Montréalais, avec raison, ont un sentiment net de désorganisation parce que au moment où M. Charest arrive au gouvernement et qu'il lance son projet de défusion, il y a le maire de la ville, M. Tremblay, M. Zampino, qui veulent, peut-être maladroitement, là, mais sauver les meubles. Et alors, ils proposent une sorte de réorganisation de la ville de Montréal sous un modèle de banlieue quasiment. Alors, les arrondissements sont devenus des quasi-villes. Et puis ça, c'était fait pour garder ceux qui voulaient s'en aller, qui sont quand même partis puis qui nous ont laissé une ville désorganisée. Ceci dit, à travers le Québec, tout a bien fonctionné. Je vous rappellerai que...
Mais la Rive-Sud, c'est encore assez tendu.
Regardez, il y a des exceptions, Rive-Sud, Montréal. Mais il y en a 57 autres qui ont été des grands, grands succès. Que ce soit Sherbrooke, Gatineau, que ce soit Chicoutimi, Saint-Jérôme, Saint-Hyacinthe, Matane, on pourrait comme ça les allonger. Parce qu'à travers le Québec, finalement, les gens ont compris que c'était une façon de s'enraciner encore mieux dans cet immense territoire qui est le nôtre. Ici, à Montréal, vous savez que... ce que ça a mis en cause, c'est ce que j'appelle, moi, la grande désorganisation. C'est à peu près toutes les grandes villes du monde ont des arrondissements. Je pense pas qu'il y en ait ou des boroughs, là, parce oui. que dans les, comme à Londres, où je suis allée voir d'ailleurs comment ça se passait. Mais il y en a pas de grandes villes qui ont transformé leur arrondissement en quasi-ville. Mais nous, à Montréal, là, depuis 2003, dans une loi Bayon où les Montréalais ont même pas rien vu passer parce que c'était en même temps que 8 autres lois. Il y en a eu 9 adoptées en même temps.
Oui, mais sur des questions parfois très, très simples, on pense uniquement, par exemple, à la question du déneigement. On voit tout ce que ça peut amener de chaotique quand on a l'impression qu'il y a plusieurs villes dans une ville.
Mais c'est une ville à deux vitesses présentement parce que les mêmes services ne sont pas offerts aux citoyens. Dépendamment de, mm-hmm. d'où ils sont, les écarts se sont même souvent agrandis, des écarts, si vous voulez, de services offerts, dépendamment si vous êtes sur une partie du territoire de la ville qui est plus riche ou qui l'est moins, ou qui était auparavant une ville plus riche et puis qui a un quartier qui l'était moins.
Donc, ça prendrait peut-être une couche de vernis sur ce que vous avez implanté comme réforme?
Bien, prenez juste le fait d'élire des maires d'arrondissement au suffrage universel. Ça, c'est invraisemblable, cette histoire-là. Les Montréalais, ils se retrouvent plus. Il y en a combien de maires actuellement, là, sur le territoire de Montréal, qui ont des cabinets, qui font des relations publiques, qui même vont faire des relations internationales. Et c'est comme si on avait une confédération maintenant d'arrondissement ou de quasi-ville, là, plutôt que d'avoir une ville où le maire parle d'une seule voix. Prenez ce qui se passe à Québec avec le maire Labeaume. Quand il a parlé au sommet de la culture de Québec, il parle, imaginez-vous, à l'époque de Jean-Paul Lallier, qui avait 11 maires de la communauté urbaine de Québec qui lui étaient hostiles et qui étaient toujours en désaccord avec ce qu'il voulait, alors que là, le maire de Québec, il parle d'une seule voix, puis il parle en son nom de tous.
On va poursuivre là-dessus. J'aimerais juste que vous nous présentiez la prochaine chanson de Locke Merville que vous nous avez proposée.
J'aime beaucoup Locke Merville. Locke Merville... a été patriote de l'année il y a 3 ans, je pense, nommé par la Société Saint-Jean-Baptiste. Puis j'ai eu l'occasion par la suite de le mieux connaître au sein du Conseil de la souveraineté, où il se trouvait que sa conjointe siégeait également. Et puis j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait, et c'est en particulier cette chanson, « Tipeïa ». En fait, c'est du pays dont il parle.
« Gardez ma Tipeïa »
C'est ça, oui. Sous béton, hein? Nous tous c'est you know.
Gardez marcher, ah petit pays non.
Nous étions ensemble pour marcher, pour petit pays ah.
Yes ça ouais,
comme ça
yes ça. Ouais. Marcher 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 là.
Marcher marcher marcher.
Camper camper, on avance là. Pays d'Haïti, Tomasa, Ligel en colo, sont jamais dodo. Depuis 200 ans, la bateau, gardez ma chère, en bas chai, mal fête, yo.
Yo, mal fête, consao.
Sans mentir, baisse la loup tout bon, fais noir pas cacher, grand goût, moun yo. Non, non,
non,
mon yo. Calé, feuille, pied, bois, six bonnes poussées. Soucio pour regarder en bas bras.
Gardez
ma chère.
Locke Merville qui parle du pays, et à vous entendre précédemment, Mme Harel, on a l'impression que vous parlez maintenant municipalité. Est-ce qu'il y a une carrière politique municipale qui se dessine?
Écoutez, moi je le dis, je m'intéresse, vous l'avez bien compris, à la ville et à ceux qui y habitent, mais pas à la mairie. Il y a trop de partisanerie actuellement à Montréal. Il y a déjà 3 partis politiques municipaux. Et puis, les citoyens se rendent bien compte que quand ils n'arrivent plus à comprendre leur ville, souvent quand ils s'adressent à l'arrondissement, on leur dit c'est la faute de la ville centrale, ou s'ils vont à la ville centrale, on leur dit c'est la faute de l'arrondissement, ils ne se retrouvent plus là-dedans.
Mais vous êtes sollicité quand même.
Bien, c'est... Oui, effectivement. Oui, effectivement. Et, mais en même temps... Voyez, à Ottawa, on peut comprendre qu'il y a un courant de gauche puis un courant de droite qui s'exprime. À Québec, il y a un courant souverainiste puis un courant fédéraliste. Mais à Montréal, on ne peut pas comprendre comment tu fais que de la partisanerie, si un projet, par exemple, j'ai en tête l'expo 2020 de Monsieur La Bonté. Je n'ai pas compris pourquoi ce projet-là, qui méritait au moins d'être étudié. Je ne dis pas que j'ai la modestie de penser que je n'ai pas la prétention plutôt de penser que je peux dire que c'est un bon projet, mais pourquoi ne pas l'avoir étudié? Pourquoi l'avoir coulé dès qu'il a été lancé? Ça n'a pas de bon sens. Une administration, ça doit écouter les citoyens et je pense que l'idée, c'est du ralliement et non pas de la partisanerie.
Alors, on retrouve votre vivacité politique. Est-ce à dire, je vais poser ma question différemment, que vous avez mis un nom définitif à toute action politique active?
En tout cas, chose certaine, moi, ce qui m'intéresse présentement, ça peut avoir l'air Don Quichotte, mais c'est de secouer une espèce de résignation, de désabusement ou de découragement. Puis je sais que pour le faire, il ne faut pas que ça s'en aille tout de suite dans la partisanerie.
Parfait. Vous êtes quand même toujours très impliqué, d'une part auprès de Radio Ville-Marie, puisque vous êtes la porte-parole cette année de ce Radio-Don, et vous êtes également porte-parole de Sac à dos. Alors, si on parlait d'abord de ces deux implications?
Oui, certainement. Alors, bien sûr, avec Claude Lafortune, entre autres, j'aurai le plaisir...
Et Claire Pimpare.
Oui. J'aurai donc le plaisir le 1er, 2 et 3 mai prochain, n'est-ce pas?
Donc, dans quelques jours.
Oh, j'aimerais bien que ce soit quelques jours, on soit au printemps au moins, d'être présente au 14e Radio-Don de Radio Ville-Marie. Alors, j'y suis venue à intervalles réguliers, là, chaque année, puis c'est la première fois où je pourrais y contribuer encore plus. Et puis, comme nos auditeurs, j'espère. Et puis, il y a ce spectacle de Gino Quilico qui va avoir lieu le 4 avril au Centre Pierre Péladeau.
Qui a déjà eu lieu, puisque nous sommes le 14.
Ah, qui a déjà eu lieu.
Hélas.
Alors, magnifique spectacle, j'en suis convaincue, mais c'est pour une bonne cause. En fait, le Sac à dos, c'est un organisme qui est sert de pied à terre dans le Faubourg Saint-Laurent, qu'on peut appeler aussi quartier des spectacles, où il y a beaucoup de gens de la rue. Alors, c'est au sous-sol de l'Église Unie et on peut encore y contribuer. La campagne de financement se poursuit.
Alors, c'est important pour vous, ces implications?
Oui. C'est une société humaine qui... ne traiterait pas bien, si vous voulez, les plus démunis. C'est une société qui aurait perdu son âme, sa dignité, donc qu'on pourrait ne pas respecter.
Et Radio Ville-Marie a un peu cette mission de nourrir l'âme. Alors, la jonction, elle est parfaite. Dernière chanson que vous nous avez choisie également, qui est une interprétation d'un texte de Luc Plamondon sur une musique de Villa-Lobos. C'est Marie-Michel Desrosiers.
Oui, c'est magnifique. J'aime cette chanson. Chaque fois que je l'entends, c'est ici que je veux vivre. C'est comme un engagement. C'est un hymne. C'est comme mon hymne.
Alors, on écoute Marie-Michel Desrosiers.
Offrir tout. faut toujours reconquérir pour donner un sens à ma vie.
Quelle belle chanson, effectivement, Madame Harel. Un beau plaisir partagé. Quelle est, en terminant, on a fait un tour rapide, on pourrait passer la journée avec vous. Quelle est votre destination bonheur? Parce que vous avez parcouru de nombreux sentiers en cours de vie active. Si vous aviez des projets, on connaît votre niveau d'implication sociale, mais votre destination bonheur personnelle, quelle est-elle?
Vous voulez destination, vous voulez dire...
Dans le sens, vous avez sûrement une quête, comme tout être humain.
Mm-hmm. De bonheur. D'abord, le bonheur, je le vis, moi, quand je me lève le matin, parce que quand il y a du soleil, d'abord, en partant, j'ai l'immense chance d'habiter dans un immeuble, dans une ancienne usine de 1910. Donc, à l'époque, c'était des fenêtres qui faisaient plancher et plafond pour pouvoir avoir la lumière du jour pour faire travailler les gens sans l'électricité. Alors, j'ai ce lever du soleil.
Il avait besoin de cette lumière.
Ah, mon Dieu! Si vous saviez cette énergie, l'énergie que nous donne la nature, en fait. Hein? Qu'est-ce que j'aime les paysages québécois? Comme là, je rêve de Charlevoix. Ça me donne un bonheur. Vous savez, mon ancien conjoint qui est décédé, Michel Bourdon, qui était aussi député avec qui j'ai toujours été amie, et a voulu se faire enterrer au cimetière de Saint-Joseph-de-la-Rive, des Éboulements, c'est juste en haut de Saint-Joseph-de-la-Rive. Et puis, c'est comme un pèlerinage, là, une fois par année que je fais. Là. Puis, dès que c'est possible, j'amène les petits-enfants aussi. Puis, on parle de Michel, on se raconte ses bons coups, ses mauvais coups parfois aussi. Je pense que le bonheur...
Ce rôle de grand-maman est important maintenant.
Oui, aussi, effectivement. Puis, le bonheur, sincèrement, ma destination, elle est plutôt quotidienne. Je ne le cherche pas ailleurs, si vous voulez, que dans les plaisirs, que le privilège que la vie nous fait de tous ces plaisirs.
Et vous vous nourrissez sans aucun doute de ceux qui vous entourent.
Évidemment. Écoutez, moi, j'ai une immense chance d'avoir une seule fille que j'aime, qui m'aime, et puis ça, c'est le bonheur de ma vie.
Bien, Madame Harel, ce fut aussi un bonheur pour nous que de vous recevoir. On vous souhaite, bien sûr, la santé, longue vie, peut-être encore une action positive sur la scène, disons publique, nous ne dirons pas politique, disons publique, et de rester aussi fraîche et dispose comme vous l'êtes en ce moment. Ce fut vraiment très apprécié que cette présence. Merci beaucoup.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
C'était l'émission Au gré du temps, Armand Dubois au microphone. Passez une excellente semaine, revenez-nous la semaine prochaine. Au plaisir, cette émission a été réalisée sous la supervision de Daniel Fortin. Au revoir.